Alors le thème, c'est ce thème de la pauvreté en esprit. C'est l'expression qu'on trouve dans l'évangile, dans les béatitudes. C'est la première des 8 béatitudes dans l'évangile de saint Matthieu, où Jésus dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient ». Et saint Matthieu, au chapitre précédent, il parle de toutes ces foules très nombreuses, de tous les pays voisins qui accourent vers Jésus pour être guéris de leur maladie, pour être délivrés du mal qui les oppresse, pour recevoir cet enseignement de lumière du Seigneur. Donc toutes les foules se rassemblent. Et puis à un certain moment, voilà ce que dit, ce que raconte Matthieu. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne, sans doute une montagne au bord du lac de Galilée. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait en disant, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Pauvres de cœur ou pauvres en esprit, bon, en grec c'est pauvres en esprit, mais ça peut être traduit différemment, ce qui est tout à fait légitime. « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Donc voilà les paroles de Jésus, puis qui continue après ça, c'est tout ce qu'on appelle le serment sur la montagne, sur 3 chapitres, donc ce grand enseignement de Jésus au début de l'évangile de Matthieu. Alors ce texte des béatitudes, je dirais qu'il est à la fois très très fascinant, très attirant, parce que il y a dans ce texte une promesse, et pas seulement une, mais même 9 si on prend le nombre de répétitions de Jésus, il y a 9 fois cette promesse, heureux êtes-vous si vous vivez ceci ou cela. Donc promesse de bonheur, promesse de bénédiction, promesse de vie. Donc ça évidemment ça nous intéresse. Tout homme, toute femme a soif du bonheur, de la vie, de la bénédiction de Dieu. Mais évidemment, ce qui est un petit peu difficile, c'est que la manière dont Jésus nous présente le chemin du bonheur à travers les mots qu'on vient d'entendre, c'est pas toujours exactement ce que nous avons en tête, surtout aujourd'hui, quand on parle de bonheur. Nous, quand on parle de bonheur, on voit plutôt l'île paradisiaque, l'hôtel 6 étoiles. Alors, donc, dans ce texte, Jésus se présente comme le nouveau Moïse, qui donne la nouvelle loi, la loi nouvelle du royaume, ce rôle d'enseignement du Christ. Donc il va délivrer un peu tout ce message de la loi nouvelle dans le serment sur la montagne. Petite parenthèse, vous voyez, c'est une loi nouvelle qui est plus exigeante que l'ancienne. C'est clair dans les paroles de Jésus. Un petit peu après, il dira de différentes manières, à propos de différentes choses, on vous a dit, mais moi je vous dis. On vous a dit, ne tuez pas. Mais moi, je vous dis, celui qui traite son frère d'imbécile est passible de la gêne. On vous a dit, ne commettez pas l'adultère. Mais moi, je vous dis, l'homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère, etc. Donc, c'est dit pour pas mal de situations. Donc, une loi nouvelle, plus exigeante que l'ancienne, parce qu'elle demande pas simplement une conduite extérieure à peu près correcte, mais elle demande un changement du cœur. Oui, ça touche en profondeur. Oui. C'est pas simplement donc quelques attitudes à peu près réglées, mais c'est quand même un cœur nouveau, une vie nouvelle qu'il s'agit de recevoir. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est que si Jésus se permet d'être plus exigeant, c'est parce que la grâce est plus abondante. C'est parce que le cadeau de Dieu est plus grand. Oui, il y a le don du Christ, l'exemple du Christ, le don de l'Esprit Saint, oui, qui nous donne cette loi gravée dans le cœur de l'homme, l'Esprit Saint qui nous donne la possibilité d'accomplir la loi de Dieu que nous ne pouvons pas accomplir par nos propres forces. Ça ne faut jamais le perdre de vue, vous voyez, c'est que quand Dieu demande plus, bien c'est parce qu'il donne plus, qu'il veut donner davantage. Mais donc ce qu'on doit comprendre dans tout le sermon sur la montagne et tout l'évangile, c'est que Jésus, par sa personne, par le don de l'Esprit Saint, veut donner à l'homme un cœur nouveau, ce que la loi ancienne ne pouvait pas faire, une transformation intérieure, qui est d'ailleurs une réalisation de la promesse des prophètes, je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau, comme on le lit dans différents prophètes. Donc une loi plus exigeante, mais un don plus grand, une grâce plus abondante qui nous est donnée. C'est important, vous voyez, que quand on regarde les commandements de Dieu, de toujours voir derrière le commandement, pas simplement l'exigence, bien sûr, il faut l'accueillir, il faut y entrer, il faut choisir cette exigence, c'est mieux que de choisir la médiocrité, mais en même temps, il faut toujours se rappeler que derrière un commandement, il y a une promesse. Il y a un don, une promesse de Dieu. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que tout... Enfin, c'est Dieu qui fera le travail. Alors bien sûr, avec notre liberté, notre collaboration, notre adhésion, mais il ne faut jamais oublier ça, vous voyez, que quand Dieu se montre exigeant, c'est parce qu'il veut donner davantage. Une transformation du cœur plus profonde. Bon, alors, bon, il y aurait infiniment de choses à dire sur ce texte des Béatitudes. On pourrait y passer des semaines. On n'a pas beaucoup de temps. Ce que je voudrais quand même mettre en lumière avant de développer cette question de la pauvreté en esprit, vous voyez, c'est que ce que nous voyons dans les Béatitudes, oui, les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, ceux qui ont faim et soif, etc. Ce que nous voyons d'abord, je dirais en première vue, c'est le portrait de Jésus lui-même. C'est peut-être ça qu'on peut percevoir de manière la plus immédiate quand on lit les Béatitudes. Et c'est vrai que quand on contemple Jésus, par exemple, dans sa passion, Jésus sur la croix, eh bien, il a réalisé, il a accompli parfaitement chacune des béatitudes. Il était totalement pauvre, nu, dépouillé, sur la croix. Il était affligé, dans la détresse, la souffrance. Il était doux, comme le petit agneau qui se laisse conduire à l'abattoir, sans dire un mot. Il avait faim et soif de justice, faim et soif de nous sauver. Il était miséricordieux, il a pardonné, il avait un cœur pur, il nous aimait d'un amour très très pur. Il n'y avait pas de recherche de soi là, c'était l'amour à l'état pur, le pur don, vous voyez. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc il avait le cœur pur, il est artisan de paix, parce que comme nous dit Paul, par la croix, par le sang de la croix, Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu. Oui, l'homme est réconcilié avec Dieu, les hommes peuvent se pardonner les uns les autres, je peux me réconcilier avec moi-même aussi, avec la vie, vous voyez, grâce à ce sacrifice de Jésus sur la croix. Donc, il est artisan de paix, il nous ramène dans la maison du Père. Il était persécuté pour la justice, insulté, etc. Donc, première constatation, je dirais, c'est que ce que Jésus un petit peu nous invite à prendre comme chemin vers le bonheur, eh bien, c'est lui le premier, la tête. Et d'abord passer par là, et donc le corps, c'est-à-dire nous, pourra suivre. C'est un peu comme dans un accouchement, enfin je suis pas un spécialiste, mais il paraît que quand la tête du bébé est sortie, on est tranquille, le reste va suivre. C'est un peu pareil pour nous, et ce qui est beau de savoir pour nous, c'est que la tête nous précède, dans la passion, dans la mort, dans la souffrance, dans la détresse, mais aussi dans la vie, dans la résurrection. Et là où la tête a pu passer, eh bien, on va réussir tous à s'enfiler les uns derrière les autres, à condition de rester bien accroché à la tête. Autrement dit, de bien nous attacher au Seigneur par la foi, l'amour et la confiance. Mais on sait que déjà, comme je le disais hier, tout finira bien. Il y a le temps de l'épreuve, de la douleur, il y a les souffrances de l'enfantement, mais après il y a la joie. Jésus utilise cette belle image, la femme qui a enfanté, oublie ses douleurs, tout à la joie de cette vie qui lui a été donnée. Voilà, donc il y a tout le mystère du Christ qui est là, il y a aussi tout l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu, le don d'esprit qui nous est promis à travers ce texte. Bon, je ne vais pas développer ça. Mais donc c'est aussi donc un chemin qui nous est proposé. C'est une question qu'on trouve souvent dans l'Écriture, choisis la vie, choisis la mort, choisis le bien, choisis le mal. Et là, je pense que ce texte aussi, il nous met devant un choix. Il nous met devant un choix. Est-ce que je vais choisir le chemin de la facilité, de la richesse, du confort, du bien-être, de la puissance, ou est-ce que j'accepte de prendre le chemin de l'humilité, de la petitesse, de la douceur, de la miséricorde? Oui, là, on est devant un carrefour et il faut demander à la Sainte Vierge de nous aider à faire le bon choix, de donner cette grâce, et de suivre le Seigneur par où il est passé, puis aussi par où il nous invite à le suivre, et en nous promettant le royaume. Cette promesse magnifique, alors sous différentes formes, Heureux les pauvres en esprit, parce que le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que c'est que le royaume? Le royaume, c'est toute la richesse de la vie de Dieu. Hein, toute la splendeur de Dieu, la beauté de Dieu, le mystère de Dieu, la puissance, la lumière infinie, cette puissance de vie et d'amour, hein, toute la richesse de la sagesse et des trésors de l'amour divin, mais c'est tout ça qui nous est donné. Oui. Il y a une porte qui est petite, la porte de la pauvreté, mais ce qu'on trouve derrière la porte, c'est pas petit du tout, c'est immense. C'est toute l'immensité du ciel, du bonheur, du mystère de Dieu, de sa bonté, de sa grandeur, etc., qui nous est donnée gratuitement, mais à condition d'emprunter donc ce chemin que nous propose l'Évangile. Donc la première des béatitudes, hein, comme on vient de l'entendre, hein, c'est « Heureux les pauvres en esprit », hein, qu'on traduit aussi par « pauvres de cœur », et c'est légitime, « car le royaume des cieux leur appartient ». Bon, alors c'est vrai que pour nous, c'est pas spontané de dire « ok », de sauter d'enthousiasme quand on entend ça, parce que on est quand même tous plus ou moins convaincus, même les bons chrétiens, que c'est quand même bien d'être riche, que, etc., etc., oui. Donc, comment comprendre que la pauvreté puisse être une grâce? Comment est-ce que la pauvreté peut être un cadeau, peut être un bonheur? C'est vrai que c'est pas immédiat d'accepter ce message. C'est pas immédiat. Pourtant, les saints nous disent, la petite Thérèse, par exemple, elle dit, il n'y a pas de joie plus grande que celle du véritable pauvre en esprit. Donc, essayons aussi de faire confiance non seulement à l'Évangile, mais de faire confiance à tous les saints. Et les saints, c'est rien d'autre que des personnes qui ont opté pour ce chemin des béatitudes. Alors, donc comment essayer de comprendre, hein, quand même cette promesse de Jésus, hein, heureux les pauvres, le royaume des cieux leur appartient. Oui, je pense que pour comprendre, alors il y a beaucoup de voies d'approche différentes, évidemment, mais je vais vous en proposer une, hein, qui est un petit peu de passer d'abord par l'Ancien Testament. Parce que vous voyez, les mots que Jésus utilise dans sa prédication, hein, bien sûr, il y a une originalité dans le message de Jésus, une nouveauté, mais en même temps, Jésus est dans la tradition d'Israël. Hein. Et donc, tout le vocabulaire et les concepts, les images que Jésus utilise, on les trouve déjà pratiquement toutes, hein, dans l'Ancien Testament, dans la tradition d'Israël. Donc, ça peut être intéressant pour nous de faire, et c'est ça que je vais vous proposer, de faire un petit détour par l'Ancien Testament pour essayer de voir qu'est-ce que dans l'Ancien Testament, la pauvreté signifie. Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce thème? Donc, on va un peu commencer par ça. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'Ancien Testament, puis qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'il raconte à propos de la pauvreté, on trouve évidemment des choses très diverses. Hein, c'est normal. Alors, ce qu'on trouve, je vais pas le faire en détail parce que ça prendrait trop de temps, mais il y a une prédication sur la pauvreté dans l'Ancien Testament qu'on peut pas oublier. C'est les prophètes qui voient la pauvreté en Israël comme une chose négative. Oui, surtout quand elle est le fruit de l'injustice. Oui, donc c'est pas normal que dans le peuple d'Israël il y ait des gens toujours plus riches, des gens riches qui payent pas leurs ouvriers, qui aient cette injustice. Donc les prophètes, vous savez, sont très très virulents, comme Amos par exemple et puis d'autres. Puis ça continue dans le Nouveau Testament, Saint Jacques. Oui, donc il y a une prédication prophétique très forte, hein, contre la pauvreté, la misère qui vient de l'injustice. Hein, c'est pas normal. Donc, faut lutter contre, et donc, il y a une pauvreté qui est mauvaise et contre laquelle il faut lutter, hein, qu'on ne peut pas accepter, qu'on ne peut pas tolérer. Bon. Alors, je développe pas ça parce que c'est pas le sujet principal, mais c'est quand même un type de discours, hein, dans la Bible qu'on ne peut pas non plus écarter. Mais, ce qui est donc plus proche de notre thème, hein, de la pauvreté comme bonheur, c'est qu'on voit aussi dans l'Ancien Testament, peu à peu, une notion de pauvreté qui n'est plus négative, mais qui devient positive. Une pauvreté qui est quelque chose qui peut être bon, hein, qui peut nous rapprocher de Dieu, qui peut nous, voilà, nous faire grandir, nous purifier. Donc on trouve ça aussi se développer peu à peu dans l'Ancien Testament. Alors, déjà de manière assez ancienne, mais ce type de concept de pauvreté positif, vous voyez, on le verra surtout donc après l'exil, hein, quand le peuple juif a été... Jérusalem a été saccagée, le temple a été détruit, brûlé par les Babyloniens en 580, le peuple exilé en grande partie, donc Israël a vécu un grand appauvrissement, hein, plus de pouvoir politique, plus de culte au temple, donc un temps de détresse, de pauvreté, qui a été évidemment extrêmement douloureux pour le peuple d'Israël, mais Ce qui est beau, c'est de voir qu'à ce moment-là, la prédication des prophètes devient souvent une invitation à l'espérance, à la consolation. Oui, ne pas vous désespérer. Que Dieu vous a appauvri, c'est vrai, mais peut-être que cette pauvreté, ça peut devenir une chance. Oui, ça peut devenir une chance. Oui, cette pauvreté, cette fragilité, cette impuissance dans laquelle vous êtes, eh bien, ne la voyez pas comme une catastrophe absolue, mais Dieu pourra en tirer un bien. Et donc, on va trouver donc une notion positive de cette question de la pauvreté. Alors, ce que je vais faire dans ce que je vais développer un petit peu maintenant, c'est que je vais surtout parler des psaumes, parce que on trouve évidemment ailleurs que dans les psaumes des réflexions sur la pauvreté, dans beaucoup de prophètes, Isaïe et d'autres, et puis d'autres livres. Mais les psaumes, c'est spécialement intéressant parce que les psaumes, c'est le livre de prière d'Israël et encore le nôtre. Et ce qui veut dire aussi que les psaumes, c'est comme un compendium, c'est comme un résumé de toute l'expérience spirituelle d'Israël, de toute son expérience avec Dieu. Expérience spirituelle, humaine en même temps, on ne peut pas séparer les deux, mais tout ce que Israël a vécu avec le Seigneur, eh bien on le retrouve dans les psaumes. Aussi bien la joie, la louange, le bonheur, la consolation, mais aussi la pauvreté, la souffrance. Oui, les psaumes, c'est vraiment génial parce qu'on y trouve absolument tous les sentiments humains. Depuis le sauter de joie jusqu'au plafond sans s'arrêter du matin au soir, jusque le pauvre qui crie dans sa misère, Seigneur, j'en peux plus, arrête de m'abandonner. Voilà. Oui, on y trouve absolument toutes les situations humaines. Mais tout ça, je dirais, dans une relation à Dieu, qui fait qu'en finalement tout est tourné vers Dieu et que tout revient à Dieu et qu'à la fin, tous les derniers psaumes, c'est que des psaumes de louange. Il n'y a plus que ça à la fin. Il n'y a plus que l'action de grâce. Ce sera pareil pour nous. À la fin, il n'y aura plus que l'action de grâce. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes tes merveilles. Bon, quand j'y étais, ce n'était pas une merveille, mais maintenant, je peux dire... Notre vie finira par un magnificat. Et d'ailleurs, il faut qu'elle commence comme ça, parce que justement, c'est le moyen le plus sûr pour que ça marche. Déjà aujourd'hui, comme je le disais à la première enseignement, déjà aujourd'hui, apprendre à vivre dans l'action de grâce, eh bien, c'est ça justement qui nous tire vers le mystère du royaume. Alors, quand on regarde les psaumes, on s'aperçoit qu'il y a tout un vocabulaire assez riche à propos de la pauvreté, sans faire de jeu de mots. C'est qu'il y a un vocabulaire assez large. Vous voyez, on trouve des termes, par exemple, des termes, alors il y a le pauvre, il y a l'humble, oui, le petit, le faible, la personne fragile, l'étranger, l'orphelin, la veuve, donc des situations sociales plus marquées par une idée de pauvreté. Oui, la personne qui est isolée, la personne qui est affligée. Un terme qu'on trouve aussi plusieurs fois dans les psaumes et ailleurs, qui est beau, c'est aussi une autre expression de pauvreté, c'est le cœur brisé. Oui. Bon. Donc il y a l'affligé, il y a l'indigent, bon, etc. Oui, donc tout un ensemble de termes, toute une constellation de mots qui tournent autour de cette idée de pauvreté. Alors, avec à la fois des mots qui expriment une réalité humaine, sociale, mais aussi un petit peu des mots qui commencent à exprimer non seulement une situation concrète, mais aussi des attitudes intérieures, oui, d'humilité, d'abandon, vous voyez, bon. Tout ça commence à se mélanger un petit peu. Il y a les situations humaines, mais aussi comment, dans ces situations humaines, on peut pratiquer certaines choses comme l'abandon, comme l'humilité, comme l'espérance, voilà. Alors, si on voulait essayer de résumer l'enseignement donc des psaumes au sujet de la pauvreté, au sujet des pauvres, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme définition? Oui, quand les psaumes et puis la Bible nous parlent du pauvre, le pauvre, il y a aussi parfois au pluriel les pauvres du Seigneur, les anawim. Oui, quand la Bible parle du pauvre, de qui elle nous parle? Quel est le sujet qu'il y a derrière ce mot? Et je crois qu'en fin de compte, c'est assez simple. Oui, qu'est-ce que c'est que le pauvre donc dans l'Ancien Testament? C'est la personne humaine, homme ou femme, qui traverse un moment difficile. Alors pour des raisons très diverses, ça peut être parce qu'il est seul, parce qu'il est abandonné, parce qu'il est étranger, parce qu'il est malade, parce qu'il est opprimé, parce qu'il se sent abandonné, etc. Bon, une personne qui pour des raisons très très différentes vit une situation humaine douloureuse, difficile, et à cause de ça, elle ne peut plus que crier vers Dieu, vous voyez. C'est ça le pauvre, et c'est l'homme qui vit une situation tellement de telle fragilité, de telle détresse, ben, qu'il n'a plus de solution. J'ai plus de solution, j'ai tout essayé, il n'y a plus rien qui marche. Donc il n'y a qu'une solution qui me reste, c'est de crier vers le bon Dieu. Seigneur, je t'en supplie, viens me sauver. Il n'y a que toi là qui peux m'aider. Et donc ça, c'est un truc qu'on trouve assez souvent dans les psaumes. Vous savez, quand on fait nos offices monastiques, la communauté ou ailleurs, en général, on commence l'office par ces paroles, un Dieu vient à mon aide, le Seigneur à mon secours. Alors, on fait ça sur une jolie mélodie grégorienne ou autre. Oui, Dieu vient à mon aide. Oui, mais on oublie peut-être que le gars qui a prononcé ces paroles, le psalmiste, qui a mis ces paroles par écrit, c'était pas une jolie mélodie. C'était un type qui était dans la détresse, qui s'en sortait pas, hein, et qui a supplié Dieu. Seigneur, viens à mon aide, hein, sois mon secours. Hein, parce que si c'est pas toi qui fais quelque chose, là, je suis fichu. Des profondeurs, j'écris vers toi. Donc, oui, donc c'est ça. Hein, on pourrait résumer, je dirais, l'idée qu'il y a derrière ce mot de pauvreté dans ce type de situation. Hein, je m'en sors pas. Hein, je m'en sors pas. J'y arrive pas. J'y arrive plus. Je suis paumé. Je suis tout seul. J'ai tout essayé. Il y a rien qui marche. Donc, il n'y a plus qu'une solution, c'est de crier vers le bon Dieu. Hein, je t'en supplie, Seigneur, viens me sauver. Viens à mon secours. Hein, et ça, on trouve. À longueur de page, pas dans tous les psaumes, parce que les derniers, ça ne s'y trouve plus, il n'y a plus que la louange, mais en tout cas, dans les 140 premiers, ça se trouve assez abondamment. Oui. Et je dirais que cette situation de pauvreté, c'est parfois une situation de pauvreté au plan matériel, hein, ça peut être le cas d'une personne misérable, aussi au plan économique, enfin bon, sa situation sociale, mais ça peut aussi arriver à des riches. Hein. Mais par exemple, un exemple de pauvreté dans la tradition d'Israël, c'est aussi le prophète, c'est aussi le roi David. Bon, économiquement, ça n'allait pas trop mal, mais il a eu des moments de grande détresse. Oui. D'abord, quand il s'est senti pécheur, oui, après sa faute, là, il s'est senti pauvre. Il a senti que sa couronne était vraiment tombée par terre, là, qu'il avait fait des conneries que, en tant que roi, il pouvait pas se permettre. Et donc là, vraiment, il s'est senti pauvre. Quand Nathan lui a dit, c'est toi, cet homme, qu'il a réalisé son péché, il l'a pas réalisé tout de suite. On est aveuglé parfois. On a besoin de temps en temps d'un Nathan qui vient nous dire, faut demander à Dieu de nous en envoyer. Oui, mais là, il a été pauvre. Oui, puis c'est là qu'il a supplié Dieu, hein, ce très beau cantique, le psaume 50, là, ce cantique de repentance, hein, où David invoque la miséricorde de Dieu. Oui, bon. Et puis aussi, il y a ce moment où David, par exemple, son fils Absalom a voulu prendre le pouvoir, a pris Jérusalem, il a dû fuir. Et puis, la Bible nous dit que David montait le mont des oliviers en pleurant, là où Jésus aussi, il montait le mont des oliviers en pleurant parce qu'il devait fuir son fils Absalom qui voulait prendre sa place. Il y a un autre exemple aussi de pauvreté chez quelqu'un de très riche que je trouve beau, que j'aime bien, c'est l'exemple de la reine Esther. Alors elle aussi économiquement, ça n'allait pas trop mal, je pense que les joyaux et les robes qu'elle avait, ça ferait envie à toutes les braves dames qui sont ici. Mais elle a eu aussi ce moment de pauvreté parce que, comme vous le savez, donc c'était cette jeune juive qui a été épousée par le roi Assuérus à cause de sa beauté. Mais il y a eu une persécution qui s'est déclenchée contre le peuple juif, contre Israël. Une violente persécution. Et puis elle a senti qu'elle ne pouvait pas rester indifférente. Il fallait qu'elle fasse quelque chose pour sauver le peuple qui était le sien. Et donc elle a décidé d'aller supplier le roi, mais elle risquait sa vie. Parce que d'après la loi de l'époque, dans ce coin-là, si on se présentait spontanément devant le roi, ben, on vous zigouillait illico, parce qu'il fallait se présenter sur présentation, sur convocation, et non pas de manière spontanée. Et donc, mais elle décide quand même de le faire. Et donc, ce qui est très beau, c'est que la veille, donc de jour, elle fait ses démarches, donc elle va passer toute la nuit à jeûner, à prier avec ses servantes, puis à supplier Dieu, de l'aider. Voilà comment elle prie. Mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique. Viens me secourir, car je suis seul. Je n'ai que toi, Seigneur. Je suis seul. J'ai beau être la reine du royaume le plus grand de l'époque. Je suis seul. Je n'ai pas d'autre secours que toi, et je vais risquer ma vie. Voilà, donc elle supplie, elle rappelle à Dieu les promesses des pères, et puis elle supplie Dieu de l'aider dans cette démarche. Puis comme on sait, ça va marcher, parce que effectivement, le roi va se laisser. Va se laisser toucher par la prière d'Esther et puis fera ce qu'il faut pour que Israël soit sauvé. Voilà, donc tout ça pour dire mais que c'est pas simplement une question de pauvreté matérielle ou sociale, mais c'est plus profond et plus général. Hein. Je dirais de vivre comme ça des moments on est dans une telle situation que, eh bien, s'il n'y a pas le bon Dieu sur qui on peut compter, on ne sait pas très bien sur qui on va pouvoir s'appuyer. On n'a plus que Dieu comme espérance. On n'a plus que Dieu comme secours. Oui, c'est ça la pauvreté biblique. Alors, à la fois, c'est très négatif, parce que justement, on est pauvre, on est seul, humainement, psychologiquement, c'est très dur, mais quelque part, ce qui change tout, c'est qu'il y a Dieu. C'est qu'on crie vers Dieu. On a quelqu'un vers qui on peut crier. On a quelqu'un qu'on peut invoquer. Et c'est ça qui change tout, vous voyez. Qui peu à peu va tout changer. Alors, donc, il y a ce point de départ, vous voyez, donc, situation de détresse humaine, et une telle détresse qu'il n'y a plus que... Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de crier vers le Seigneur. Donc ça, c'est le point de départ. Deuxièmement, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ce pauvre qui crie vers Dieu? Qu'est-ce qui va se passer? Alors là, il y a un message qui est hyper clair, hein, plus clair tu meurs. Le message de l'Écriture, c'est que Dieu entend la prière du pauvre. Il entend la prière du pauvre et il viendra le secourir. Alors ça, c'est dit aussi dans les psaumes ailleurs, hein, bien sûr, mais je me limite aux psaumes. C'est dit très très souvent aussi dans la Bible. Là, je vais vous lire simplement quelques versets de psaumes, hein, qui, à travers un langage, des expressions un peu différentes, mais expriment la même réalité, la fidélité de Dieu pour le pauvre. Oui, Dieu est fidèle, Dieu a compassion, hein, Dieu a pitié, hein, de ce pauvre qui crie vers lui. Alors, psaume 9. Hein, le pauvre n'est pas oublié jusqu'à la fin. L'espoir des malheureux ne périt pas à jamais. Le pauvre n'est pas oublié par Dieu. Psaume 9. Psaume 21, c'est le psaume que Jésus a chanté pendant sa passion. Dieu n'a pas méprisé ni dédaigné la pauvreté du pauvre. Il ne lui a point caché sa face, mais invoqué par lui, Dieu écouta. Et c'est vrai que Jésus sur la croix, il était ce pauvre qui a crié vers Dieu. Et le Père l'exauce et l'a ressuscité. Dieu n'a pas méprisé la pauvreté du pauvre. Psaume 33. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Dieu écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Psaume 33, le même psaume. Le Seigneur est proche des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Mais ton cœur est brisé par le mal, par la souffrance, et bien Dieu est proche. Tu es abattu, tu es paumé, Dieu est là. Dieu est là pour toi, pour te secourir. Verset psaume 39. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Il y en a au moins un. Les autres, ils m'ont peut-être tous oublié, mais il y en a au moins un qui pense à moi, c'est le Seigneur. Oui, c'est des phrases très très simples, hein, mais c'est tellement fort, oui, c'est parole de Dieu. Hein. Et puis c'est une parole de Dieu qui est prouvée par l'expérience spirituelle que Israël a mise par écrit, hein, vous voyez, par les hommes c'est leur témoignage, hein, vivant. Hein. On ne connaît pas leur nom, mais en écrivant les psaumes, ils ont laissé un témoignage vivant de leur expérience de la fidélité de Dieu. Psaume 112, « De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour l'asseoir au rang des princes de son peuple. » Oui, c'est ce renversement que Marie chante aussi dans le Magnificat, le pauvre qui était dans la poussière, dans la détresse, oui, Dieu le relève et en fait un prince. Il exalte les petits et les pauvres, et puis au contraire, les grands, hein, il les humilie. Un dernier verset, hein, dans le psaume 114. Hein, le Seigneur protège les petits. Hein, j'étais faible et il m'a sauvé. Oui, c'est très simple. Hein, le Seigneur protège les petits. J'en faisais partie. J'étais faible. Hein, j'étais faible, impuissant. Hein, je m'en sortais pas. Hein, et il m'a sauvé. Oui, c'est dit en trois mots, vous voyez, mais. Il ne donne pas de détails, mais hein, on sent bien le témoignage de la vérité. On sent bien que ce n'est pas un gars qui a fait ça dans une bibliothèque universitaire. Enfin, c'est très très bien les bibliothèques universitaires, mais c'est la vie, hein, quand même qui parle, hein, dans la Bible. C'est ça qui fait la beauté de la Bible. Voilà. Alors donc, on pourrait donner d'autres exemples, hein, ailleurs des psaumes, mais je ne veux pas être trop long. Donc ça, c'est le message donc fondamental, c'est la fidélité de Dieu à l'égard du pauvre. Dieu a pitié, Dieu a compassion, Dieu viendra, Dieu te visitera, Dieu te pardonnera, Dieu te sauvera, Dieu te guérira. Hein? Ouais, donc une invitation très forte à l'espérance, hein, c'est très très clair. Seulement, je dirais qu'il reste une petite difficulté quand même dans tout ce que je raconte, qui est la suivante, c'est que entre le moment hein, où le pauvre crie et puis le moment où Dieu intervient pour le consoler, pour le sauver, ben, parfois il y a un petit peu de temps. Parfois ça va très vite, ça dure 5 minutes. Bon, parfois ça dure une semaine, parfois ça dure 15 ans, même parfois un peu plus. C'est donc ça un petit peu le problème. Oui, c'est que il y a cette certitude, il y a le pauvre qui crie, il y a Dieu qui écoute, ça c'est sûr, mais l'intervention de Dieu est pas toujours aussi rapide que ce qu'on voudrait. Et on sent que, alors ce qui est intéressant, c'est que cette question-là aussi, bien sûr, elle est évoquée dans les psaumes. Par exemple, vous voyez, dans le psaume 12, hein, il y a 4 fois de suite la question qui est posée, combien de temps? Et puis il y a d'autres psaumes aussi où on trouve la même question. Mais je cite simplement celui-là. Hein, combien de temps, Seigneur, vas-tu m'oublier? Combien de temps me cacher ton visage? Hein, combien de temps aurais-je l'âme en peine et le cœur attristé chaque jour? Hein, combien de temps mon ennemi sera-t-il le plus fort? Mais combien de temps ça va durer, Seigneur? Donc, il y a aussi cette question. Alors, dans le psaume, vous verrez, il n'y a pas de réponse. Mais simplement, il y a Dieu qui intervient après. Oui, tout simplement. Et puis, enfin, il y a comme une espérance qui renaît. Enfin, la certitude que Dieu va intervenir. Donc il reste quand même, enfin, il y a donc cet aspect qu'on ne peut pas oublier non plus. Oui, c'est ce temps, qui est difficile pour nous, qui est le temps de l'attente, le temps de la patience, le temps de la prière, le temps du cri, de la supplication. Et c'est vrai que nous, c'est difficile, surtout dans le monde d'aujourd'hui, on veut que tout arrive tout de suite. Si le colis que j'ai commandé aujourd'hui n'arrive pas demain matin à 9h, c'est une catastrophe, et j'irai chez un autre vendeur en ligne, oui, on veut tout avoir tout de suite. Et donc, on a un mal fou hein, avec cette question du temps, cette question de la patience. Et je pense que dans ce domaine-là, ce qui est peut-être important pour nous, c'est de comprendre que ce temps d'attente, ce temps de patience, eh bien, ce n'est pas un temps négatif, c'est un temps douloureux, parce que Dieu semble absent, semble ne pas être très réactif, mais c'est pas un temps négatif. Pour plusieurs raisons. Je dirais la première raison, c'est que cette attente, oui, nous rappelle que c'est pas moi le patron. Oui, c'est pas moi qui suis le maître. Je ne peux qu'attendre, je ne peux qu'espérer. Alors, il y a un psaume qui dit, il est bon d'attendre en silence à l'intervention de Dieu. Vous voyez, je ne suis pas le maître. Donc, il y a comme un appel à l'humilité, oui, là-dedans. Bon, ben, accepte de ne pas être la personne qui a tout de suite la solution, qui ne résout pas tout tout de suite. Accepte d'être le pauvre qui doit attendre le moment de la grâce. Donc, une invitation à l'humilité. Il y avait déjà une forte invitation à l'espérance, mais là, c'est une invitation à l'humilité. Tout simplement, eh bien, c'est pas toi le patron. Et puis, je dirais que l'autre invitation aussi qui est faite, là, assez fortement, c'est une invitation, peu à peu, à laisser de côté nos idées à nous. Oui, nous sommes très très forts pour donner des conseils à Dieu. Ah, le bon Dieu devrait faire ceci, le bon Dieu devrait faire cela. Mettez-vous à sa place et vous verrez que c'est pas si facile que ça. Il vaut mieux être à notre place qu'à celle du bon Dieu. Ça, je vous le dis tout de suite. Mais donc, nous, on est très forts pour donner des conseils à Dieu. Et donc, l'invitation qui nous est faite dans ce temps d'attente, où Dieu semble pas tout de suite agir, eh bien, c'est justement de laisser de côté notre sagesse, nos solutions, nos espérances humaines, pour laisser Dieu faire. Non pas comme je veux et quand je veux, mais comme tu veux et quand tu veux, Seigneur. Ouais, je te fais confiance. Je te demande pas de faire les choses à mon idée. Je te demande pas de faire les choses comme je voudrais te les imposer, comme je suis tenté de te les imposer. Mais il y a un certain moment, on lâche, on abandonne. Oui, ça fait partie de l'abandon, ça, qui est tellement important. On en parlait hier. Ça fait partie de l'abandon. Oui, l'abandon, c'est à la fois s'abandonner comme l'enfant dans les bras de son père. C'est un abandon, un acte de confiance. Mais l'abandon, c'est aussi, ben, je laisse de côté. Oui, je renonce à mes exigences. J'accepte que Dieu fasse les choses selon sa sagesse et non selon la mienne. Il y a comme un renoncement, oui, à mes vues, à mes perspectives, à ma sagesse, pour tout simplement, et c'est une grande pauvreté, tout simplement laisser Dieu faire, comme il veut, quand il veut. Donc, il y a cet appel à l'abandon. Je ne dis pas qu'il est facile, mais il est nécessaire, et puis il est bon, vous voyez, parce que c'est justement un acte de confiance. C'est une remise de soi entre les mains de Dieu, et donc ça permettra à Dieu d'agir finalement avec plus de puissance que si Dieu avait fait comme moi, je voulais lui enjoindre de faire. Ça, c'est une étape qui n'est pas facile pour nous, mais cette étape d'abandon. Ben voilà, non, Seigneur, j'aurais tant aimé que tu fasses ci, que tu fasses ça, et tu le fais pas. Bon, ben, j'accepte que tu fasses autrement. J'ai tant prié pour que ce malade guérisse. Bon, ben, je me rends compte maintenant que ton choix est différent. Ben, oui, consentir à la sagesse de Dieu et non pas à la mienne. Et puis, est-ce que, et ça, c'est très positif, oui. Parce que plus on laisse Dieu agir, plus Dieu agira. Avec force. Et puis c'est positif aussi, je dirais, ce temps de l'attente, de la patience, parce que je dirais que ça creuse en nous. Ça creuse en nous un désir plus profond de Dieu, de son intervention, oui. Oui, à force de prier, à force d'invoquer le Seigneur, il y a comme on se rapproche de lui, même si on s'en rend pas compte. Oui. Chaque fois qu'on prie, même si Dieu ne nous exauce pas, on se rapproche de Dieu. C'est absolument certain. À chaque fois qu'on demande quelque chose à Dieu, même si on ne le reçoit pas, eh bien, ça valait la peine de demander parce que ça nous a rapprochés de Dieu, ça nous a tournés vers lui. Oui. Et puis, je dirais donc, ça creuse en nous un désir, et puis ça creuse en nous, je dirais, un espace, hein, comme un grand espace, qui fait que le jour où Dieu interviendra, il pourra nous donner infiniment plus que ce qu'il nous aurait donné si tout de suite il avait exaucé comme moi je le voulais. Voyez. Oui. Moi, je crois qu'il y a ça qu'il faut comprendre derrière. Hein, donc, ça peut nous aider à pratiquer cette patience, cette espérance. Oui. Mais donc ce temps difficile pour nous au plan humain, hein, ce temps de l'attente, de la patience, de la prière, eh bien, et dont on ne sait pas combien de temps il va durer, hein, par définition, donc on n'a pas la maîtrise, eh bien c'est en fait un temps très positif. Hein. C'est un appel à l'humilité, un certain appauvrissement, oui, de pas être maître du temps et des solutions, mais quelque part, ça nous dispose de manière très profonde à laisser Dieu agir et accueillir l'action de Dieu de manière plus puissante que si tout de suite il avait fait ce que je lui demandais, qu'il avait fait dans les 3 minutes que je lui disais, il faut que tu fasses. Voilà. Et donc la venue de Dieu est certaine, hein, mais on ne peut pas la programmer. Hein, on peut simplement espérer, attendre, patienter. Alors, ce que je voudrais faire remarquer maintenant, c'est que je viens de décrire une espèce de chemin, une espèce d'itinéraire, où il y a différentes étapes. Il y a l'étape de l'expérience de pauvreté, hein, qui nous oblige à crier vers Dieu. Hein, donc, enfin, il y a l'étape de l'expérience de pauvreté, première étape. Deuxième étape, le cri vers Dieu. Troisième étape, c'est l'attente, hein, douloureuse, mais bon, qui finit par, hein, qui finit par cesser. Hein, et donc, la quatrième étape, la dernière étape, c'est celle de l'intervention de Dieu, hein, le moment de la visite, de la consolation, hein, ce moment parfois imprévu, c'est parfois quand on l'attendait plus que Dieu nous visite d'une manière très très belle, nous console. Hein. J'ai eu hier une personne qui me donnait un témoignage très beau, elle portait des inquiétudes assez fortes par rapport à des choses passées qu'elle avait vécues, puis voilà qu'un jour, à Lourdes, elle était vraiment complètement consolée, pacifiée, hein, par rapport à ce qu'elle portait de douloureux en elle. Mais donc ce moment de la visite de Dieu. Le moment de la miséricorde, le moment du pardon, le moment de la grâce, le moment de la consolation, le moment de la guérison. Le moment où la vie est redonnée en abondance par une visite de Dieu. Voilà. Le Seigneur a visité son peuple, comme le disaient les gens à l'époque de Jésus. Et donc, il y a donc cet itinéraire en 4 étapes. Vous voyez? Et ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que cet itinéraire que la personne parcourt, eh bien, elle change profondément le cœur de la personne elle-même. Oui, c'est que c'est pas simplement les situations qui finissent par se résoudre d'une manière ou d'une autre. Bien plus que ça, c'est la personne elle-même qui est changée quand elle a traversé cet itinéraire. Et elle a changé intérieurement, mais quand elle a vécu tout ça, son cœur a été comme renouvelé. Alors, en quoi est-ce que cette personne a changé? C'est pour ça que la Thérèse de Lisieux peut dire, hein, que la pauvreté en esprit peut nous conduire à la joie et au bonheur. Enfin, Thérèse a dit aussi une autre phrase un peu analogue que je trouve belle et importante. Elle dit, Thérèse, que la plus grande chose que Dieu a fait en moi, c'est de me montrer ma petitesse et mon impuissance. C'est la plus grande chose qu'il ait fait en moi. C'est ce que vit la personne que je viens d'évoquer dans, hein, le pauvre dont nous parlons, dont nous suivons l'itinéraire. Alors qu'est-ce qui se passe? Je dirais que ce qui se passe, c'est que dans tout ce vécu, hein, la personne, je dirais qu'elle a connu sa fragilité, hein, elle a expérimenté ses limites, mais elle a aussi expérimenté à la fin la tendresse de Dieu. Et donc cette personne, en conséquence de quoi, elle perd son orgueil, elle perd son arrogance, sa prétention d'être meilleure que les autres, parce qu'elle est passée par la pauvreté. Comme le prophète Élie, un jour, j'ai pas le temps d'en parler, mais le prophète Élie, il y a eu ce moment extraordinaire où il était devant 450 prophètes de Baal, et le seul prophète fidèle à Dieu, puis il a fait tomber le feu du ciel sur le sacrifice, et puis il a passé au fil de l'épée les 450 prophètes. Et puis quelques temps après, donc le même Élie, il y a la reine Jézabel qui est en colère contre lui, qui veut le tuer, et il a peur, il fuit. Oui. Il a eu pas peur de 450 prophètes de Baal, mais il a eu peur de la colère d'une femme. Il n'y a pas d'antiféminisme là-dedans, rassurez-vous. Enfin, toujours est-il que le pauvre Élie s'enfuit à toute vitesse. Du Mont Carmel, il est descendu, il a galopé jusqu'au sud, jusque le Negev, là, au sud d'Israël. Puis là, il était tellement découragé qu'il était se mettre sous un arbre en disant « Seigneur, prends ma vie. Prends ma vie. » Il n'avait plus qu'une envie, c'était de mourir. « Prends ma vie parce que je ne suis pas meilleur que mes pères. » Puis c'est là qu'il y a l'ange qui l'a consolé, qui lui a donné à boire, à manger, puis il est reparti, enfin... Il est reparti, donc 40 jours et 40 nuits pour rencontrer Dieu à l'Horeb. Mais donc il y a eu ce moment de grande pauvreté que toute personne connaît un jour ou l'autre. Et tous les saints sont passés par là. Et je dirais que c'est positif parce que ça fait que l'orgueil disparaît. Oui, la prétention d'être meilleur que les autres, donner des conseils à tout le monde. Oui, mais l'homme a expérimenté sa pauvreté radicale. Donc il devient humble. Il ne fait pas simplement semblant d'être humble, mais il le devient. Oui, il pratique pas une espèce de modestie, oui, mais il devient humble parce qu'il sait. Il est tellement convaincu de sa pauvreté que je dirais que il n'a pas besoin de pratiquer l'humilité parce que de toute façon, il n'a pas le choix. C'est ça la vraie humilité, c'est quand on n'a plus le choix. On a tellement senti sa pauvreté, mais en même temps, on a tellement senti la miséricorde de Dieu. Bon, alors, donc tout ça, ça fait beaucoup de bien. Moïse, Saint-Pierre, enfin, ils sont tous passés par là. Où j'en suis? Oui, donc l'âme perd, elle perd son orgueil, sa prétention d'être meilleure que les autres, elle devient humble, elle accepte de pas toujours être capable de tout comprendre et de tout maîtriser dans la vie. Elle s'est rendue compte qu'elle pouvait pas, que ça sert à rien de vouloir tout expliquer, tout comprendre, tout maîtriser, parce que de toute façon, on n'y arrive pas. On peut avoir l'impression d'y arriver pendant quelques années, mais il y a un moment où c'est d'une évidence absolue que c'est impossible. Donc elle a appris à s'abandonner à Dieu avec confiance. Vous voyez. On apprend l'humilité, on apprend l'abandon, on apprend la confiance. Elle apprend aussi à consentir à sa faiblesse, oui, à s'appuyer de plus en plus, non pas sur ses propres forces, sa capacité, son intelligence, mais elle a appris à s'appuyer sur la grâce et la bonté de Dieu. Mais c'est ça maintenant mon appui, mon espérance. C'est pas ce que je peux faire, c'est pas mes capacités. Bon, bien sûr, je fais ce que je peux. J'utilise mes capacités. Si j'ai un cerveau, ben, je vais l'utiliser. Bon. Mais c'est pas là-dessus que je m'appuie. Mon appui, ma solidité, mon rocher, c'est la miséricorde de Dieu. Elle accepte humblement le secours de Dieu, puis aussi elle accepte l'aide des autres. Voyez. Je fais une petite remarque, oui. Nous préférons tous être des personnes qui aident les autres, plutôt que d'être des personnes qui ont besoin d'être aidées. C'est vrai ou pas? Là, l'orgueil caché, vous voyez. On aime bien aider les autres. C'est génial, c'est super. Mais ça peut être une position d'orgueil. Mais on n'aime pas avoir besoin des autres. Et c'est là la vraie humilité. Je reconnais que j'ai besoin des autres. Et j'accueille l'aide de mes frères et sœurs. Et même parfois, j'ose la demander. J'ose appeler au secours. Je prétends pas de pouvoir tout résoudre tout seul. J'ai cette humilité de demander l'aide dont j'ai besoin. Parfois, c'est un grand acte d'humilité que de demander l'aide dont on a besoin. Mais ça plaît à Dieu. Oui, c'est Jean de la Croix qui dit ça, que Dieu aime énormément que les hommes aient besoin les uns des autres. Il aime énormément que les hommes se laissent conduire les uns par les autres. Ça plaît beaucoup à Dieu, dit Jean de la Croix. Il va être content que je parle de lui le jour de la fête de Notre-Dame, donc Mont Carmel. Donc la personne devient humble, vous voyez, devient douce aussi, devient. Et puis ce qui est important aussi, c'est que cette personne, eh bien, elle entre dans une vraie connaissance de Dieu. Vous voyez. C'est un petit peu que s'exprime Job. Oui, Job qui était tellement éprouvé, tout ça, puis à la fin, Dieu l'a relevé. Et au moment où Job est en train de sortir de son épreuve, il dit la chose suivante. Il dit, « Avant, je te connaissais par oui-dire, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Avant, je te connaissais parce que j'avais entendu parler de toi, parce que j'avais un master en théologie. Bon, je ne dis pas que c'est mal. Hein. Mais avant, je te connaissais parce que j'avais entendu parler de toi, j'avais des belles idées sur toi, mais maintenant, je te connais par expérience. Je te connais comme Dieu de miséricorde, comme celui qui s'est penché sur ma misère, comme celui qui a eu pitié de moi, comme le bon samaritain qui a pansé mes plaies. Pour moi, c'est ça Dieu maintenant. » Alors, c'est bien sûr le Dieu de gloire qu'on est heureux de chanter à certains moments, mais c'est aussi le Père de tendresse et de miséricorde, le Dieu de consolation. Voilà comment maintenant je connais Dieu. Il y a un texte qui est beau dans Jérémie, il dit « En ces jours-là, plus personne n'aura à enseigner son frère, à dire « Fais-moi connaître le Seigneur, car tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands. » En ce temps-là, tous me connaîtront des plus petits jusqu'aux plus grands, parce que je pardonnerai leurs fautes et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Une connaissance de Dieu qui est une connaissance de sa miséricorde. C'est très très beau. Donc là, j'ai connu Dieu dans son amour miséricordieux, sa tendresse, sa bonté de Père. C'est plus un Dieu lointain et abstrait, ou un Dieu dont je me sers pour matraquer les autres, vous voyez, mais c'est celui qui a eu pitié de moi, et dont j'ai goûté la bonté, la tendresse. Puis la personne, donc à travers tout ce qu'elle a vécu aussi, à travers l'expérience de pauvreté, eh bien elle a, et puis l'expérience de la miséricorde de Dieu, eh bien elle apprend à ne plus juger les autres. Voyez, elle ne juge plus personne, elle ne méprise personne, elle ne se croit plus au-dessus des autres. Mais elle devient compréhensive, elle devient miséricordieuse. Oui. Et puis elle apprend aussi à se pardonner à elle-même, ses misères et ses erreurs. Ayant reçu le pardon de Dieu, eh bien elle apprend à se pardonner elle-même. Et puis à pardonner aux autres aussi. Et puis donc cette personne aussi, elle se débarrasse de sa dureté de cœur. Elle devient humble, elle devient douce. Ça va ensemble. Et donc c'est pas fini. Et puis donc cette personne aussi, grâce à cet itinéraire qu'elle a vécu, elle a de plus en plus faim et soif de Dieu. Parce qu'elle sait bien que c'est lui notre véritable espérance, c'est lui notre appui, notre secours, c'est lui chez qui nous trouvons la lumière et la paix et puis les solutions dont nous avons besoin pour notre vie. Donc il y a comme un désir de Dieu qui s'approfondit, une faim, une soif de Dieu. Et puis, dernier point, la personne qui a fait tout cet itinéraire en quatre étapes que j'ai évoquées, elle est devenue aussi en fin de compte plus paisible. Plus paisible parce que d'abord elle s'abandonne à Dieu, elle expérimente la fidélité de Dieu, elle fait plus confiance à Dieu, et puis aussi elle accepte ses limites, elle accepte sa fragilité. Et donc, elle est plus paisible, plus libre, et puis du coup, elle devient aussi plus forte dans le combat spirituel, et puis plus forte éventuellement pour accepter des épreuves ou des persécutions, ce qui est la 8e béatitude. Alors, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce que je viens de dire là, en les 5 dernières minutes, c'est exactement ce qu'il y a dans toutes les autres béatitudes. La 2e jusqu'à la 8e et 9e. Vous voyez, je reprends pour que ça devienne plus clair. Donc, dans une première étape, il y a le pauvre qui crie vers Dieu, mais que la Bible proclame heureux à cause de ce qui va se passer après. Deuxièmement, la personne qui pleure, qui connaît les larmes, mais qui reçoit la consolation de Dieu. Donc là, c'est la 2e béatitude. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Et puis ensuite, cette même personne, comme je l'ai dit, elle est devenue douce, elle est devenue humble, et donc elle vit la 3e béatitude. Heureux les doux, car ils auront la terre en héritage. Et puis, comme je l'ai dit aussi un petit peu, c'est que cette personne qui a vécu tout cela, eh bien, elle a une plus grande soif de Dieu, de cette vérité, de cette vie que nous trouvons en Dieu. Donc elle a faim et soif de justice. C'est la 4e béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. C'est pas autre chose que d'avoir faim et soif de Dieu, de la vérité de Dieu. Donc ça, là, c'est la 4e béatitude. Et puis, comme je l'ai dit aussi, la personne, elle devient miséricordieuse. Elle arrête de juger les autres. Elle devient capable de pardonner, de se pardonner elle-même, puis de pardonner aux autres. Donc ça, c'est la 5e béatitude. Et puis cette personne aussi, à travers tout ce qu'elle a vécu, elle a l'âme d'un amour plus pur, vous voyez. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de prétention de dominer les autres, on ne cherche plus à contrôler, on ne cherche plus à manipuler, on ne cherche plus à posséder. Hein, on est devenu pauvre de cœur. Hein, autrement dit, on aime d'un amour très pur. Oui. Hein, on aime l'autre pour elle, pour lui-même, dans le respect, dans la douceur, dans la simplicité, dans la générosité, parce qu'on a expérimenté que Dieu est généreux, donc on commence à avoir envie d'être un peu plus généreux envers les autres. Oui, donc il y a aussi une pureté de l'amour, hein, qui est comme un fruit de toute expérience précédente. Et donc c'est la sixième béatitude. Et puis, comme je l'ai dit aussi, la personne trouve la paix, hein, parce qu'elle a su s'abandonner à Dieu, elle sait espérer en lui, elle se réconcilie avec sa faiblesse, elle accueille le pardon de Dieu, elle accueille l'aide des autres. Donc la personne est paisible, hein, et devient artisan de paix, hein, capable de communiquer la paix aux personnes avec qui elle vit. C'est la septième béatitude. Et puis donc, elle est fortifiée à travers tout cela, parce que comme elle s'appuie plus sur le Seigneur et moins sur elle-même, elle est plus forte. Et donc, quand arrive la persécution, eh bien, on peut l'accepter, parce qu'on sait que Dieu sera là, qu'il ne va pas nous lâcher. On l'a expérimenté. Dieu ne m'a pas lâché dans mon passé, mais il ne va pas me lâcher dans mon avenir. Mais donc, on est capable d'endurer parfois certaines souffrances pour le royaume. Oui, donc c'est assez intéressant de voir les choses comme ça, parce qu'on voit comment, à partir de la première béatitude, eh bien, toutes les autres, on les enfile. Oui, elles se fuient. Comme ça, on tire la bobine et puis elles arrivent toutes les unes après les autres. Alors, je voudrais faire quelques ultimes remarques. Oui, c'est que donc, j'essaie de développer un certain itinéraire humain et spirituel, hein, en quatre étapes. Situation de pauvreté, cri vers Dieu, attente, patiente, persévérante, et puis Dieu qui intervient, hein, Dieu qui console et qui sauve. Oui. Hein, et ce que je dirais, oui, c'est que cet itinéraire, il peut avoir des formes extrêmement variées. Oui, puis ça peut toucher des points de notre vie extrêmement différents. Oui. Parfois, je peux être un peu appauvri dans ma santé, parfois je peux être appauvri dans, je sais pas quoi, ma confiance dans les institutions, c'est un peu ce que j'ai développé hier. Vous voyez, donc, cette expérience de pauvreté, elle peut avoir des formes extrêmement différentes, extrêmement variées. Hein. Et puis je dirais que ça peut changer sur les étapes de la vie. Peut-être qu'il y a un moment de ma vie où la pauvreté que je vais éprouver, qui me fera crier vers Dieu, ce sera tel type de problème. Et puis, 30 ans plus tard, l'expérience de pauvreté que je vais vivre et qui va me faire crier vers Dieu, ce sera tout à fait autre chose. Hein? Bon, dans la diversité de ce que peut vivre une personne sur cette terre. Donc ça peut avoir des modalités très variées. Hein? Ça peut toucher des domaines de notre vie très très différents. Et pas tout en même temps, heureusement, en général. Bon, puis de toute façon, Dieu nous soutient, hein, même si on ne le sent pas toujours, hein, de manière secrète, il nous tient dans sa main. Donc ça, c'est la première remarque, ça peut toucher des aspects très différents de la vie humaine. Puis deuxième remarque, vous voyez, c'est que ce que j'ai évoqué, ce cycle, cet itinéraire, vous voyez, c'est un peu comme dans les machines à laver. Bon, là, je ne suis pas non plus un spécialiste, même si de temps en temps, je dois faire des lessives quand les sœurs ne sont pas là. Vous savez, dans les machines à laver modernes, il y a beaucoup de cycles différents. Alors, il y a des cycles très délicats. Pour les tissus délicats, alors là, c'est 20 degrés ou je sais pas quoi, très peu de savon, puis ça tourne très, très, très doucement. Donc, comme ça, des cycles très doux. Oui. Donc des moments de pauvreté, bon, qui sont pas si dramatiques que ça, mais qui nous font quand même un peu évoluer. Tu vois. Bon, donc ça nous touche quand même, mais ça reste encore un petit peu épidermique, je dirais. Ça fait partie des cycles délicats. Et puis, il y a des cycles un peu plus intensifs, oui. Juste que le cycle pour le jean très très encrassé de votre adolescent qui fait une partie de foot pendant 3 heures, alors là il faut le programme, alors haute chaleur, haute vitesse, savon en abondance, et puis ça tourne et ça tourne et ça tourne, et puis effectivement on arrive à récupérer un jean à peu près propre au bout de ce lavage. Et donc là c'est un peu pareil dans notre vie aussi, voyez. Il y a parfois justement des expériences de pauvreté, puis tout cet itinéraire, bon, qui est vécu mais avec une intensité beaucoup plus forte. Oui, c'est un peu ce que, mais quand Jean de la Croix parle des nuits spirituelles, ben c'est ça, oui. C'est des personnes qui sont appelées à une sainteté particulière et qui vivent des épreuves plus profondes pour être purifiées de manière plus radicale, à devenir radicalement humble, radicalement pauvre et douce, oui. Hein, et pour justement porter plus de fruits, pour que l'Esprit Saint travaille. Hein. Oui. Donc tout ça pour dire que ces petits cycles dont j'ai parlé, ils peuvent toucher des aspects très différents de la vie. Ils peuvent avoir des intensités différentes aussi. Parfois, c'est pas trop dur. Parfois, ça peut être très raide. Oui. Mais, c'est toujours pareil, hein. Il faut se confier à Dieu. Oui, s'abandonner, espérer, prier, et puis ne jamais perdre l'espérance, ne jamais douter, hein, de la miséricorde de Dieu. Puis viendra le temps de la grâce. Et dans ce temps de la grâce, eh bien, on aura tous les fruits de ce qu'on aura vécu précédemment, qu'on pouvait pas voir avant, parce qu'un fruit, quand il est pas là, on peut pas le, quand c'est pas mûr, on peut pas la voir, mais vient le temps des fruits et le temps de la grâce. Donc évidemment, il faudrait après ça reprendre chacune des béatitudes pour l'approfondir. Bon, je le fais pas maintenant. Ben, si ça vous intéresse, j'ai fait un livre sur ce sujet, donc publié aux éditions des Béatitudes, qui s'appelle donc Le bonheur où on ne l'attend pas. Donc c'est beau d'approfondir ce thème des béatitudes, parce que pour moi c'est le cœur de l'évangile, et puis c'est tellement important pour nous aujourd'hui, pour l'Église aujourd'hui. Le pape François veut une Église des béatitudes, une Église humble, miséricordieuse, pure, douce. Vous voyez, bon. C'est très important, c'est la clé du bonheur. C'est aussi la clé de la maturité humaine, de la force humaine. Oui. Les béatitudes, c'est aussi le chemin de la maturité spirituelle. Être adulte dans le Christ. Non pas la mentalité du monde, mais être adulte selon l'Évangile. Et puis, ce que je voudrais dire quand même comme parole de conclusion, c'est que ce message des béatitudes, c'est vraiment un message d'une immense espérance. Oui. Parce que ça veut dire que, quelles que soient nos pauvretés, Dieu pourra en tirer un bien. Oui. Si on les vit dans ce climat de prière, d'abandon, de confiance, d'espérance, d'humilité, vous voyez, si on se laisse faire par le Seigneur, si on accepte d'être dans la machine à laver, même si on ne sait pas très bien quand est-ce qu'on va en sortir, vous voyez, Dieu peut tirer un bien de tout. On n'arrête pas de le répéter, mais c'est tellement vrai, puis on a tellement besoin de le réentendre, vous voyez. Donc c'est vraiment un message d'espérance. Donc, n'ayons pas peur, je dirais, de nos pauvretés. N'ayons pas peur des moments où la vie nous appauvrit. N'ayons pas peur des situations qui nous humilient. N'ayons pas peur de nos fragilités. N'ayons pas peur de nos échecs. Voyez. N'ayons pas peur de nos misères. Jésus nous dit, donne tout cela au Seigneur. Laisse Dieu faire. Abandonne-toi, laisse Dieu faire. Et tu verras que de chacune de tes pauvretés, Dieu va tirer un trésor. Elle va tirer une richesse. Mais si Dieu a changé l'eau en vin, si Jésus change le pain et le vin en son corps, eh bien, c'est pour changer nos cœurs. C'est pour que toutes nos misères soient transformées en grâce, en richesse, en bénédiction, en joie, en liberté, en bonheur, etc. Alors c'est vrai qu'être dedans, c'est pas toujours facile, hein, ce temps de l'attente, mais il y a une immense espérance, hein, dans ce message des béatitudes. Que toutes nos pauvretés, ben Dieu en fera des richesses.